Pour cette deuxième partie, nous allons commencer par entendre Daniel Nevers et revenir un tout petit peu à ce qui s'était déroulé aux États-Unis à partir de 1942, puisqu'il y a une grève du syndicat des musiciens. Cette grève est importante pour l'histoire du jazz parce que pendant 2 ans ou à peu près, un peu moins en fait, Daniel Nevers va vous l'expliquer, eh bien on n'a pas eu d'enregistrement, on n'a pas suivi en fait les prolégomènes du bebop.
Je veux revenir 2 secondes sur cette histoire, 23 secondes, sur cette histoire de grève du syndicat des musiciens américains. Il concernait absolument tous les musiciens, pas seulement les musiciens de jazz, bien entendu. Et l'une des principales raisons de cette grève décrétée par Petrillo, qui était à l'époque le patron du syndicat des musiciens, concernait les redevances que les grandes compagnies refusaient de payer aux disques passant dans les jukebox. C'était l'un des principaux points de revendication. Et effectivement, elle a duré plus de 2 ans, de fin juillet 1942 à novembre 1944, mais elle s'est coupée en deux. C'est-à-dire qu'à l'automne 1943, la plupart des petites firmes, comme vous l'avez dit, il y avait aussi Signature parmi ces petites firmes qui a enregistré Coleman Hawkins, Dickie Wells, Lester Young également, ont accepté les revendications du syndicat et ont donc pu recommencer à enregistrer comme pour le commerce. Alors que les deux, il y avait également parmi elles une marque importante qui était Decca, qui a accepté également. Par contre, les deux majors, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire RCA et Columbia, qui avaient encore des biscuits, ont refusé et ça a fait se poursuivre la grève pendant encore 1 an, jusqu'à ce qu'elle finisse par céder tout de même. Les Vidisques, donc, sont arrivés à peu près au moment de la reprise partielle, c'est-à-dire que l'idée était lancée depuis 1942, mais le temps que l'intendance suive, et le temps qu'on mette tout ça sur pied, parce qu'il y avait aussi la radio militaire, ce qui était tout à fait autre chose, l'AFRS, ce qui ne les empêchait pas de se repasser d'ailleurs aux États-Unis, Armed Forces Radio Network. Service.
Network. Oui, le network, c'était.
En Europe, pas aux États-Unis.
Le FRS était le service qui a envoyé des disques même d'une demi-heure pour les stations.
Voilà.
Mais les stations de radio s'appelaient American Forces Network.
Oui.
Les réseaux des forces américaines, oui.
Donc il y a eu une collaboration entre les V-disques et ces services qui enregistraient pour la radio, de tout, là encore, tous les genres de musique, bien entendu, mais une collaboration quand même relativement limitée. C'était deux services indépendants l'un de l'autre. Et les premiers V-disques, je crois qu'on les envoyait par paquet de 10, et les 10 premiers ont dû être expédiés aux GIs, ou du moins à ceux qui étaient censés réceptionner ces disques, en septembre 1943. Donc c'est assez tardif, il a fallu du temps pour mettre ça en place. On y trouvait bien sûr du jazz, on y trouvait aussi des chants de Noël, on y trouvait de la chanson, il y a même des reprises de 2 titres de Maurice Chevalier, chantant en anglais, des choses enregistrées vers 1930-31. On y trouve de la musique classique, des choses dirigées par Pierre Monteux, par Manuel Rosenthal, des concerts d'un peu tous les genres. Et finalement, en plus, il faut bien préciser que des V-disques, qui en a eu 904 en tout, les derniers sortant seulement 1949, et que là-dedans, il y a seulement une petite partie, disons à peu près un quart, qui sont des enregistrements originaux faits pour V-disques. Le reste étant récupéré de concerts, ou quelquefois de disques du commerce plus anciens, des années 30 la plupart du temps, qui ont été prêtés par les maisons productrices. Et édité, c'était en quelque sorte leur effort de guerre, édité sur les V-disques. Mais les maisons continuaient à être propriétaires des matrices.
Chaps and such is what comes round here bouncing on a V-disc. Yeah! Thank you.
On écoutait donc ici Fats Waller, enregistré en 1943 pour les V-disques, justement. Nous allons poursuivre la discussion sur ces V-disques parce qu'ils ont une importance dans la connaissance du jazz à ce moment-là, dans la mesure où les soldats américains, les GIs, comme on disait à l'époque, arrivent avec ces 78 tours dans leur besace. Et en fait, ils les donnent très souvent aux amateurs de jazz français. Ça permet aussi une diffusion par cet intermédiaire du jazz. Alors, Sim Coppens va nous dire en même temps qu'il n'y avait pas seulement des V-disques, il y avait aussi des V-books, donc que c'était un ensemble pour rendre le soldat américain heureux.
Il y a eu beaucoup de Fats Waller, de Louis Armstrong, de Duke Ellington. C'est vraiment la toute dernière séance d'enregistrement connue de Fats Waller. Il est mort, vous l'avez dit, ça date de la fin septembre 1943. C'est d'ailleurs une des premières séances organisées par V-disque. Et il est mort fin décembre. Et comme c'était la grève, lui travaillait, enregistrait normalement pour RCA, donc il n'enregistrait pas, sauf ces V-disques, parce que là, l'autorisation existait. Le syndicat acceptait qu'on enregistre pour l'armée, pour ce genre de choses. Et là, c'était vraiment une séance originale de V-disques, alors qu'il existe d'autres V-disques avec des morceaux de Fats Waller qui sont en fait des reprises du commerce des enregistrements des années 37-38. Le plus ancien, je crois, qui a été repris doit dater de 1930, c'est un Duke Ellington.
Les V-disques faisait partie d'une campagne pour rendre les soldats heureux. Évidemment, dans tous mes mois en Normandie avec l'armée américaine, j'ai jamais vu un V10, et pour bonne cause. Les V10 ont commencé à servir à Paris, diffusés par American Forces Network, la radio de l'armée américaine, dès 1945. Mais l'armée américaine servait bien les soldats. S'il y avait les V10, il y avait ce qu'on peut appeler les V-livres, des petits livres de poche que l'armée a fourni en milliers de titres, que ce soit les romans policiers, que ce soit les livres plus sérieux. J'ai chez moi un excellent histoire de jazz, Esquire, pour l'année 1944, publié. Donc, livres et disques, tout ça c'était pour tout. Et d'ailleurs, sur les V-disques, quand je vous lis ça, c'est pour l'armée, pour la marine, pour le Marine Corps, pour la garde côtière. Et attention, il ne faut pas utiliser ça pour les besoins commerciaux. Évidemment, aujourd'hui, on peut trouver des disques un peu partout. C'est des piratages. Mais
oui,
c'est
en compact, bien sûr. Et avant, d'ailleurs, en 33 tours.
En 33 tours.
Il y a longtemps que ça a été réédité.
Et tant mieux.
Je voudrais ajouter que... au tout début, les V-disques sortaient sous deux étiquettes différentes parce que les corps d'armée aux États-Unis étaient quelquefois rivaux, antagonistes, et en 1943-1944, les premiers, c'était exactement les mêmes enregistrements. Les couplages n'étaient pas toujours les mêmes. Il y avait une série qui était réservée à l'armée de terre et l'autre série qui était réservée à la marine. Et ça ne se mélangeait pas. Seulement à partir du numéro 300 et des poussières, on s'est dit que c'était idiot. Et on a tout sorti en faisant figurer Army, Navy, Marine Corps et garde-côte. Mais seulement au bout de 300 et quelques sorties. Ce qui est assez curieux. Ceux de la marine sont beaucoup plus difficiles à trouver que ceux de l'armée de terre.
On peut en trouver deux sortes, et ceux de la marine qu'on a, ils sont rouges.
Ils avaient les couleurs, ils avaient les couleurs inversées. Ah.
Thank you.
Sim Coppens ensuite se souvient d'un concert donné aux États-Unis en 1943, le 23 janvier exactement. C'est un grand concert dans le cadre de la guerre parce que c'est l'un des premiers concerts de Duke Ellington au Carnegie Hall. Il y en aura d'autres en 44, 45, 46, etc. Tous les ans quasiment. Et ce concert-là, dans le souvenir de Sim Coppens, occupe une place particulière. D'abord parce que c'est vrai que ce premier concert du Duke intégrait une longue suite composée par Duke Ellington à ce moment-là qui s'intitulait Black, Brown and Beige. À l'époque, Duke pensait que justement la lutte contre le fascisme, et ça rejoignait l'expérience dont nous avons parlé la première fois lors de la première partie de cette série d'émissions de John Hendricks, bien Duke Ellington pensait qu'il y aurait intégration des Africains-Américains dans la nation américaine en fonction même de la lutte contre le fascisme. Ça pouvait pas rester, pensait-il, sans conséquence. Et cette dernière partie, Beige, disparaîtra petit à petit de cette suite qu'il continuera à jouer, qu'il continuera à donner. Donc c'est un concert vraiment très important. Je ne pouvais pas faire écouter ensuite, évidemment, cette Black, Brown and Beige. Brown dure 30 minutes, Beige 13 minutes, vous voyez, ça dépassait le cadre de cette émission. Peut-être qu'un jour, nous pourrons le faire. Et donc, pour alimenter ce que nous dit Sim Coppens, eh bien, j'ai choisi le premier thème qui était donné lors de ce concert de 1943, la Black and Tan Fantasy.
Eh bien, je n'avais pas beaucoup de sous, mais ma femme et moi, nous avons assisté à ce concert qui fêtait les 20 ans de jazz de Duke Ellington. C'était extraordinaire. Sur scène, à côté de l'orchestre, de chaque côté, il y avait les plus grands chefs d'orchestre symphonique, Benny Goodman et les chefs d'orchestre. Et le morceau que Ellington a composé et interprété était un poème épique intitulé « Black, Brown and Beige »,« Noir, Brun et Beige », l'histoire du peuple noir aux États-Unis. Ellington a cherché à montrer tout ce que le noir a contribué à l'histoire des États-Unis. Il y avait le work song, il y avait le Negro spiritual, il y avait le blues, les trois aspects de la musique noire américaine. C'était un concert inoubliable, à mon avis, un des grands moments dans l'histoire du jazz.
Après cette Black and Tan Fantasy, le concert du Duke du 23 janvier 1943, nous avions invité aussi Jacques Chesnel lors de cette émission réalisée en direct. Il venait juste de publier un livre qui portait sur le débarquement et le débarquement du jazz en Normandie. Il était donc bien placé pour nous dire un peu ce que voulait dire le jazz à Caen en 1944.
Pas dire grand-chose. Il y avait eu quelques orchestres, notamment l'orchestre de Jean Le Breton, qui avait un petit peu suivi le genre de jazz que jouait Raymond Legrand et que jouait Joe Bouillon notamment, Fred Addison. Donc, mais je reviens sur le mot jazz. Il y avait quand même, moi je sais que je passais mes vacances à la campagne, comme beaucoup de gens, parce que on allait chercher de la nourriture entre 1940 et 1944, notamment on allait chercher du beurre et du fromage. Et je dois dire que c'est grâce au fromage que je suis resté en bonne santé, parce que mon père connaissait un fromager qui nous donnait des tonnes de fromage, et j'ai mangé du fromage pendant toute l'occupation. Et donc à la campagne, je me rappelle, c'était en 1938, il y avait à côté de chez mes cousins, il y avait des réfugiés espagnols qui avaient fêté le 14 juillet 1938 à leur manière. Et ma cousine me dit, tu devrais venir écouter, toi qui aimes la musique, figure-toi qu'il y a un gars qui joue du jazz. Alors je m'étais précipité pour voir ce que c'était, ce que ce mot-là voulait dire. Et dans l'esprit de beaucoup de gens à l'époque, le jazz, c'était tout simplement la batterie.
En cette année 1944, aux États-Unis, la revue Esquire, qui existait à ce moment-là, dans laquelle écrivait Leonard Fraser, a envie de participer à l'effort de guerre. Alors, il réalise un très grand concert au Metropolitan Opera, un concert qui va être édité en V-disque, du moins une partie de ce concert, et puis qui va être repris au Japon, diffusé en CD, puisqu'on peut aujourd'hui l'entendre, ce concert, dans son intégralité. Il y aura évidemment des grands de ce moment-là, Louis Armstrong, Aldridge, Art Tatum, Billie Holiday, etc. Et donc, Lionel Hampton. Et donc Daniel Nevers va nous présenter un tout petit peu ce concert-là.
D'abord, ce n'est pas lui qui les a pris, ce sont les critiques, une douzaine de critiques qui ont été réunies au mois de décembre 1943, dont Robert Goffin, que vous avez cité. Il y avait également Timur Rosenkranz, pour citer un non-américain, puisque lui, il était danois. Il y avait Charles Edward Smith aussi, enfin pas mal de monde. Et c'est leur choix qui a prévalu. Et effectivement, aucun n'a cité une seule fois les jeunes gens en colère de l'époque, les Dizzy Gillespie, Charlie Parker, pour la bonne raison, c'est qu'ils ne devaient pas les connaître, ou très peu, que c'était des gens qui étaient encore en train de chercher dans les laboratoires musicaux, genre Minton et autres, et que on les connaissait pas beaucoup, même si Dizzy avait déjà fait quelques disques, même si Parker avait également participé à quelques séances d'enregistrement avec l'orchestre de G. McShan. Et puis ça n'était pas le but de la manœuvre. C'était un concert qui était organisé pour soutenir le pays, pour soutenir l'armée, qui devait donc rameuter le plus grand nombre de spectateurs possible. Donc il fallait des locomotives. Des gens connus, Louis Armstrong, Art Tatum, Coleman Hawkins, etc. Il y avait le duo. Celui qui est arrivé après Armstrong, c'était Cootie Williams, qui à l'époque n'était plus chez Duke Ellington, qui avait son propre orchestre. Cootie a participé à une séance d'enregistrement souvenir, mais n'a pas participé au concert parce qu'il n'était pas libre ce soir-là. C'est le suivant qui est venu, c'est-à-dire Roy Eldridge, qui était quelqu'un de très connu. Il y avait Lionel Hampton, il y avait aussi quelques musiciens blancs, Jack Teagarden, qui était connu, Red Norvo, le vibraphoniste. Il y avait quand même une majorité de musiciens noirs là-dedans. Donc Billie Holiday aussi parmi les vocalistes.
On guitar, Al Casey. Drums, Sidney Catlett. Trombone, Jack Teagarden. Thank you. clarinet, Barney Bigard. Tenor saxophone, Coleman Hawkins. Trumpet, Roy Eldridge.
Le concert a été enregistré dans son intégralité et a été diffusé. Une partie a été diffusée en direct. Ensuite, l'intégralité du concert a été diffusée en différé, comme on dit aujourd'hui et comme on ne disait peut-être pas à l'époque, quelques jours plus tard, puisqu'il y a eu pas mal d'enregistrements de faits. Et des fragments ont été publiés en V-disque, mais seulement des fragments.
Christian Belleste maintenant, parce qu'on passe aussi au jazz en France. Christian Belleste, nous l'avions interviewé à cette époque, malheureusement il nous a quittés depuis. Il fut le trompettiste du jazz de Paris à ce moment-là, au moment de l'occupation, dirigé d'abord par Alix Combel et puis après par Jerry Mengo. Christian Belleste, un trompettiste assez moelleux, assez bien dans cette ère du temps, bizarrement, parce que en même temps, il arrive à être très incisif. Il est de la même lignée que Aimé Barilli, qui a fait carrière ensuite. Et donc, je voulais absolument, malgré malgré le fait que ne ce soit pas tout à fait bien audible, je vais vous demander de faire attention. Je voulais vous faire entendre son témoignage réalisé à l'époque, parce que c'est un témoignage important sur les années d'occupation et sur les années de libération. Et comme il était logique, je vous le ferai écouter ensuite à la tête de son orchestre. Et dans son orchestre, il y avait notamment une pianiste importante au moment de cette occupation et un peu avant, Yvonne Blanc.
C'était des arrangements imprimés qu'on avait reçus, je ne sais pas trop comment, que Combelle avait réussi à avoir par les États-Unis. Il y avait des titres comme Deux pieds gauches, je vais retrouver sur un point. Là. Par exemple, un morceau de Parade des remparts du Sud, hein, ça c'était la traduction de South Rampart Street Parade, vous vous rappelez ça, il y avait ça, il y avait Fou, il y avait L'horloge de grand-père. Hier et aujourd'hui, qui était au Saint-Claude de Béziers, hein, parce qu'on n'avait pas le droit de. On avait le droit de jouer du jazz, mais encore une fois, on n'avait pas le droit de.
Le droit de musique américaine.
Et ouais, le fameux In the Mood, là, qui s'appelait Dans l'ambiance, on a enregistré aussi. Il y avait Fort Danseuse Humblée, qui s'appelait Fort. Vous les connaissez, vous avez dit ça, non?
Oui,
c'était. Fort Danseuse Humblée, c'est Jimmy Lansford qui avait enregistré ça. Donc on appelait ça Pour Danseur seulement, bien sûr. Et puis, enfin, Verlaine qui avait été enregistré par Trenet, oui, dans la même séance, dans la même foulée, on a remplacé la voix par un solo de Alex Combelle, je crois bien. Alors que Barelli joue un solo de trompette dans le disque de, je crois, hein, dans le, je crois bien, c'est Barelli, Aimé Barelli qui joue dans la version de Trenet, hein, sur un arrangement de Hubert Rostin. Ça, c'est de, je crois bien que c'était un de ses premiers arrangements à l'époque. Hubert qui jouait à l'époque avec Django. Et il remplaçait Grimpeggy qui lui était à l'heure. Alors il y avait comme ça, ça évoluait, on faisait des soirées, on faisait des concerts à l'école normale, à la salle Pleyel, concert. On a fait le thé ensuite, Combelle est parti du jazz de Paris, était remplacé par Jerry Mingo. Et donc on jouait au thé tous les jours, au thé, au restaurant Le Doyen.
Thank you.
Le témoignage de Christian Belleste nous introduisait dans ce jazz et l'occupation. On a dit beaucoup d'erreurs. On a multiplié les erreurs d'ailleurs parce que on a cru que le jazz était totalement interdit, ce qui n'était pas le cas. Il y avait beaucoup de monde au concert de jazz pendant l'occupation, au contraire de ce qu'on dit d'habitude, et le jazz n'a jamais été aussi populaire. Daniel Nevers nous a raconté, mais aussi tous les témoignages concordent, que Django Reinhardt est devenu là la grande vedette nationale, sinon internationale, qu'il sera après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est produit une sorte d'osmose entre les azous, c'est comme ça qu'on disait à partir de 1942, et le jazz, qui faisait que même s'il était interdit de danser, on écoutait beaucoup de jazz. Alors Daniel Nevers nous avait, historien, nous avait raconté ça pendant cette série d'émissions réalisée en public ce 1er juin 1994. On ne peut pas tout reprendre ici, mais il faut conserver ça à l'esprit pour comprendre la suite. Alors, il nous a raconté aussi cette petite histoire que j'aime beaucoup concernant André Francis. À l'époque, en 1994, aujourd'hui il est à la retraite, chargé des émissions de jazz sur France Inter notamment. Donc André Francis, il lui était arrivé un certain nombre d'histoires. Je cède la parole à Daniel Nevers.
André Francis, qui s'occupe de jazz à Radio France depuis des années, à l'époque, il était fort jeune, il était apprenti comédien au conservatoire de la rue Blanche, et un matin, il m'a raconté il y a quelques années qu'un matin, en sortant du métro, il avait peut-être les cheveux un peu longs, il s'est fait tomber dessus, on l'a tendu, mais par contre on l'a laissé partir. C'était simplement une humiliation qu'on infligeait à un certain nombre de gens. On ne l'a pas poursuivi. Il a pu aller à son cours, mais sans les cheveux. Alors, pour ce qui est de Zazou, oui, je pense que le disque de Cat Calloway, qui a été enregistré en 1933, a dû avoir une certaine importance, parce que ce disque, enregistré à New York, est sorti en édition française à peu près à ce moment-là. Les ventes n'ont pas été énormes. D'ailleurs, j'ai vu le chiffre des ventes, il a dû s'en vendre 300. C'est pas énorme. Par contre, l'orchestre de Cab est venu en 34 en France. Et ce morceau faisait partie du répertoire. Et à cette époque-là, il y avait des jeunes gens qui allaient écouter ça, qui étaient fous de ça. Je pense que, par exemple, Charles Trenet et Johnny S. ont dû assister à certains de ces concerts de Cab Calloway. Et Johnny S. en 38 a composé une chanson intitulée Je suis swing, où il reprend l'onomatopée Zazou Zazou Zazouzé, qui a fait fortune, pas tout à fait à ce moment-là, mais un ou deux ans plus tard. Je pense que nuage. Mais cette version n'a pas beaucoup plu à Django. Il n'y avait qu'un seul clarinettiste, qui était Hubert Rostin, et Django l'a trouvé un peu trop maigre en écoutant le test, ce qui fait qu'il a voulu la refaire, ce qui s'est passé en décembre, en ajoutant une deuxième clarinette, celle de Alix Combel, qui d'habitude est plutôt saxophoniste ténor, mais qui jouait aussi de la clarinette dans les orchestres. Et celle-là lui a convenu, donc c'est celle-là qui a été éditée début 41, alors que la première, dont Charles Delaunay avait conservé un test, n'a été édité pour la première fois qu'en 1983. Thank you.
Nous avons entendu le témoignage indirect d'André Francis, raconté donc par Daniel Nevers. Et puis en même temps, Daniel Nevers donc expliquait les deux versions de Nuages de Django Reinhardt, le thème sans doute le plus connu. Et nous écoutions d'ailleurs la première version qui n'avait pas été publiée à l'époque du 1er octobre 1940 avec le seul Hubert Rostin à la clarinette.
Le col au de 18 pieds, or ils ont d'être le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre, or ils ont d'être nus. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu en dessous des genoux, et qu'ils t'avouent qu'ils mentent, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires, et puis surtout ils ont l'air d'écouter tous ces bruits agités. Ils sont adieux. Un jour un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de legs et de testaments. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes ados s'écrièrent en l'apercevant, ce qui fait distinguer son col rond de 18 pieds, oh, ce qu'il est adieu. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne par terre, oh, oh, ce qu'il est adieu. Il ne se doutait pas que ce digne notaire qu'il pourrait être à ce point adieu, car tous ses vêtements lui venaient de son grand-père, le col, le veston, tout et tout. Il fut tout étonné de se voir ainsi remarqué par tous les adieux. De retour chez lui, le notaire sidérait tous ses habits. Il marchait le doigt en l'air, mais bientôt ce fut bien pis. Cette maladie prit sa fille, sa femme, son clerc, son toutou. Enfin toute la famille, tout le monde devint adou. Dans le pays, quand ils se promenaient, on les croyait fous. En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, là les adous. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit, ils ont zazou. C'est une maladie assez particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grand-mères, puis se regardant, elle dit, tiens, mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis zazou. Oh, tout comme le notaire, mon veston traîne par terre, donc je suis adieu. Et si ce n'est qu'une question particulière, je suis le plus adieu d'entre nous, car ma redingote traîne jusque par terre, je le vois s'en faisons couper tout. Donc, avec compris, Nicolas, se tenait l'esprit.
Sim Coppens nous dit à son tour ce qu'il pense réellement, ce qu'il pensait, malheureusement il faut parler à l'imparfait, du quintet du Hot Club de France, et il le mettait en évidence dans les conférences qu'il donnait sur le jazz.
En ce qui concerne Django, je considère Django et le quintet parmi les grands orchestres. Je dis, j'ai utilisé le mot, j'ai fait des centaines de fois une conférence sur l'histoire du jazz que j'ai intitulée « De la côte des esclaves à la Nouvelle-Orléans ». Mais évidemment, ensuite, j'ai voulu donner quelques indications de ce qui s'est passé avec le jazz après la Nouvelle-Orléans, et je n'ai jamais oublié de montrer que le jazz est devenu très rapidement une musique internationale, et que je présentais toujours un classique du quintet pour montrer que en France, dans les années 30 déjà, on avait créé un orchestre de jazz qui figure, je crois encore, parmi le palmarès des grands orchestres de l'histoire du jazz.
Nous entendons ici le festival Swing 41 présenté par Charles Delaunay. Il y a tous les musiciens de jazz existants à ce moment-là en France. Beaucoup, Daniel Nevers nous avait dit ça, se considéraient comme des dieux à ce moment-là. C'est une façon de les entendre de nouveau puisque on ne les entend pas suffisamment. Mais avant de vous les faire entendre un tout petit peu en tous les cas, je voulais vous dire qu'on avait entendu Pierre Mingot en train de chanter « Ils sont Zazou », une composition de Johnny Hess. L'orchestre était dirigé par Michel Warlop et c'est daté du 4 janvier 43. Ce festival Swing 41 date évidemment de 1941.
Christian Wagner. Tony Rovira. Django Reinhardt.
Cette émission donc a été réalisée par Nicolas Beignès et Joël Le Tensorer. C'était la deuxième partie d'une émission spéciale autour de l'anniversaire du 6 juin 1944. C'était des extraits, donc un montage à partir d'une émission qui avait été prise en onde directement le 1er juin 1994. Et donc nous avons choisi de rééditer cette ces émissions parce que ça nous semblait très important pour aujourd'hui.